Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre rendez-vous de chaque jour. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et en direct, bien sûr, sur cette antenne et sur l'application RTL. Toutes nos émissions précédentes sont à retrouver d'ailleurs sur Radio Player France. Aujourd'hui, je vous le disais, la confiance et l'optimisme précieux sont menacés par la Covid.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Ouais.
Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job.
Voilà, Emmanuel Macron, donc au micro d'Anne-Sophie Lapix. Études perturbées, vie sociale en berne, petit boulot perdu, précarité et anxiété grandissante. Nos jeunes sont plus que jamais à l'épreuve depuis un an et paient un lourd tribut de cette crise sanitaire. Comme il est difficile d'avoir 15, 18, 20 ans aujourd'hui, alors quelles vont être les conséquences de cette année interminable sur eux? Faut-il s'alarmer pour notre jeunesse et surtout comment les accompagner ces jeunes et les soutenir au mieux? On accueille tout de suite notre premier invité, Hans. Il est à Tours. Bonjour Hans.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiant, vous avez 26 ans, vous êtes donc à Tours, où vous faites un doctorat en histoire et vous vivez en résidence universitaire. Vous avez entendu Pascal Praud nous dire il y a un instant qu'est-ce que c'est dur pour la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous auriez imaginé un jour, Hans, vivre cette période?
Honnêtement, non. Ouais. Sauf dans nos rêves.
Dans nos cauchemars.
Ouais, vraiment dans les cauchemars. Vraiment, bref, c'est trop dire simplement, mais vraiment dans les cauchemars qu'on aurait pu rêver, vivre dans de telles conditions ou dans de telles situations vraiment déplorables.
Alors, surtout lorsque l'on est jeune, je dirais, Hans, quel est votre quotidien dans votre résidence universitaire? Comment ça se passe?
Lire, lire et lire.
Lire, d'accord. Donc déjà, il y a la lecture qui, bon, est une forme d'évasion. La lecture, d'ailleurs, on la traitera la semaine prochaine dans notre émission. À part lire, parce que c'est effectivement formidable la lecture, mais néanmoins, c'est une nourriture qui ne peut pas suffire.
Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en cité universitaire, si ce n'est se retrouver peut-être entre résidents, essayer de jouer au foot, mais ça, ce sont des activités qui ne se font pas quotidiennement parce qu'on a toujours le stéréotype de la Covid, on a peur d'être contaminé et tout qui est là. Mais bon, hormis ça, il n'y a rien à faire du tout.
Vous êtes seul dans la résidence universitaire? Vous avez un petit appart ou une chambre, seule ou vous la partagez?
Je vis dans une résidence universitaire, dans une chambre de 9 mètres carrés, dans un couloir avec au moins... On va dire quoi, 7 étudiants,
ouais.
Déjà aussi, voilà, mais on ne se croise pas tout le temps.
Mais vous connaissez?
Moyennement, pour être clair, un peu du moyennement.
D'accord, ok. Faut dire que vous venez de l'étranger, hein, Hans, donc
exactement.
Vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de totalement vous intégrer à cette résidence universitaire. Est-ce que vous avez senti quand même un besoin de se retrouver, d'être ensemble, ou est-ce que la Covid et la menace de cette pandémie vous éloignent tous les uns des autres?
Non, forcément, le besoin de sociabilité, il est là. Hein. Il est là, il est grandissant, il est toujours présent. Après, la peur de se faire contaminer, c'est pas trop ça. C'est juste que les gens sont tellement frileux aujourd'hui à l'idée d'être contaminés. Et puis, on s'y habitue petit à petit au fait d'être dans son espace personnel et de vivre sa vie comme on peut l'apprendre, mais tout en restant un peu focus. Et sinon, après ça, il y a toujours le sentiment ou l'envie d'aller à l'extérieur, visiter, papoter entre amis, se balader, boire une bière, je sais pas trop.
Ouais, un truc normal, quoi. Vous sortez quand même un peu ou pas?
Non, honnêtement, non.
Vous travaillez beaucoup? Parce qu'il faut bien le dire aussi, les étudiants sont contraints aussi, toujours évidemment, à s'instruire, avec toujours des échéances. Vous avez un quotidien aussi qui est fait de travail?
Le travail, il est obligatoire du moment où j'ai fait une thèse.
D'accord.
Voilà, donc du coup, je suis obligé de m'instruire, de lire, de me documenter, d'essayer de fouiller, farfouiller.
Ouais.
Les suites des formations, à distanciel bien sûr.
Ouais.
Je suis à part ça, le quotidien ne ressemble qu'à ça. Hein.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous sortez rarement de vos 9 mètres carrés?
Exactement, sauf quand j'ai des cours en présentiel. Du moment où je suis, je ne suis pas encore clairement intégré. Ouais. Donc vous comprenez que j'ai pas d'amis ici, c'est pas une ville que je maîtrise particulièrement. Donc après les gens sont, on va dire, je critique personne, je dis ça, je dis rien.
Ouais.
Voilà, on a tellement peur aujourd'hui de se côtoyer que bon, chacun préfère rester dans son petit espace à lui et puis bon voilà, quoi, on avance. Et sinon après des compatriotes, il y en a quand même. Mais je maîtrise pas la ville, donc du coup je peux pas me déplacer pour aller chez eux tout le temps. Moi je fais résidence, université et puis c'est tout.
Donc ça veut dire que quand vous n'allez pas en cours, vous êtes confiné dans vos 9 mètres carrés avec un ordinateur pour travailler et pour prendre des cours à distance quand vous ne les avez pas en présentiel.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous manque le plus, Hans, là ?
Là, ce qui me manque, c'est la vie normale, au fait.
Ouais.
C'est-à-dire être dans un espace, par exemple, un laboratoire où je suis avec des collègues doctorants aussi qui font la même chose que moi, où on peut discuter de tous les sujets possibles.
Bien sûr.
C'est aller dans une terrasse, prendre une bière avec des amis.
Ouais.
C'est prendre un véhicule, se déplacer, aller dans une autre province pour visiter la France parce que c'est une très belle ville. Voilà, un peu de tout ça, quoi.
Est-ce que vous sentez, Hans, que votre morale s'affaisse au fur et à mesure que votre espace de vie se réduit ?
Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais pas qu'il s'affaisse, mais je dirais qu'il y a les moments quand même de trouble, les moments d'absence, les moments de solitude, les moments de tristesse. Mais après, il faudrait se remettre vite sur pied parce qu'il y a l'impératif du test qui est là. Donc, rester trop dans un monde ou dans une bulle où on n'est pas mentalement bien, c'est pas de bon augure. Donc, du coup, on se relève tout de suite. Hein. Enfin, pour ma part, je me relève tout de suite.
Ouais, en fait, vous luttez contre la déprime pour atteindre vos objectifs, quoi.
Hein, tout à fait.
Parce que vous ne pouvez pas, rater votre année. On va se retrouver dans un instant, Hans. Vous avez, on va parler de l'aide alimentaire. Hein. On va parler évidemment des finances parce que c'est difficile, hein, en ce moment pour beaucoup de jeunes. Et puis, on parlera d'une association que vous avez rencontrée. Et quelque part qui vous permet aussi peut-être d'aller chercher un peu chez des inconnus une forme de chaleur dont vous avez terriblement besoin et on le comprend. On se retrouve tout de suite sur RTL, Hans.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Aujourd'hui, on prend des nouvelles de nos jeunes qui sont étudiants. On entendra tout à l'heure Adam, il n'a que 17 ans. Mais c'est quoi avoir 17 ans aujourd'hui au temps de la Covid, alors que c'est l'âge des premiers émois, peut-être des premiers baisers, des premières sorties. Comment est-ce qu'on vit ces 17 ans? Et puis comment est-ce qu'on vit quand on est étudiant aussi, qu'on est coincé dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés, à l'instar de Hans, qui est donc notre invité, sous l'oreille bienveillante de Anne-Victoire Rousselet, Patrice Huert, que je vous présenterai dans un instant. Hans, donc vous avez 26 ans, vous êtes à Tours. Vous nous avez expliqué que votre vie aujourd'hui se limite au travail.
Hein.
La lecture, le travail dans 9 mètres carrés, que vos sorties sont uniquement pour vous rendre à vos cours en présentiel dans le cadre de vos études. Et on a vraiment le sentiment qu'en termes de vie sociale, il n'y a rien. Que vous êtes condamné à une vie limitée au strict, strict minimum. Comment vivez-vous, Hans, financièrement ?
Financièrement, honnêtement, c'est compliqué. Déjà, j'arrive en France à l'aide via le service de bourse Campus France.
Ouais.
Voilà, qui me permet d'arriver en France pour semer mes études de thèse et tout. Après, la situation boursière fait en sorte qu'elle ne vienne pas régulièrement, on ne l'aperçoit pas régulièrement. Donc,
c'est combien votre bourse par mois ?
600 euros.
D'accord.
Voilà, donc du coup, je dois me loger, je dois me vêtir, je dois me nourrir, je dois me déplacer et tout. Et sachant que pour faire une thèse, ça nécessite un coût financier énorme, donc comprenez un peu que c'est difficile. Mais bon, après, on fait avec, hein.
Ah ouais, je vous écoute et je sens monter en moi une forme d'admiration parce que je trouve que voilà, vous êtes extrêmement volontaire et puis vous nous expliquez que vous faites avec parce qu'effectivement, là où je vous rejoins, c'est qu'en ce moment, on n'a pas le choix, il faut avancer. Vous bénéficiez de l'aide alimentaire ?
Elle n'est pas régulière, ouais. En fait, l'aide alimentaire, comment on appelle ça ? C'est-à-dire qu'il y a un programme de distribution de kits alimentaires dans le campus universitaire. Mais il n'est pas aussi régulier que ça. C'est peut-être 2 à 3 fois par semaine. C'était ça, quoi. Mais sinon, pas trop grand-chose. Hein.
Hans, il y a des moments où vous vous demandez combien de temps ça va durer, cette histoire ?
Naturellement. je suis humain quand même, non ?
Mais oui, c'est pour ça, parce que je vous trouve super fort. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, bon là, échéance été prochain, mais il y a un moment où je ne vais pas y arriver, quoi ?
Oh, écoutez, ça arrive, c'est humain d'avoir ce genre de pensée négative,
oui.
De vouloir abandonner et
tout. Tout le monde là.
Si un jour ça va se terminer, si le calvaire va s'arrêter, et puis bon, on va avoir des jours meilleurs, mais après, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? En Afrique, c'est plus difficile que ça, peut-être, je sais pas, mais bon.
Voilà, parce que vous précisez que vous venez du Gabon, voilà.
Exactement.
Bon, vous avez, dans un besoin aussi de sociabilisation, et puis sûrement dans un besoin financier, vous avez rencontré une association qui est l'association Sonara.
Exact.
Alors racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Parce que ça, visiblement, ça a quand même un peu changé votre quotidien.
Ah oui, plus ou moins. Donc déjà, l'association Sonara, je rentre en contact avec eux exactement via un service de distribution d'aide alimentaire et tout. Je crois que c'est Madame Sandra Bourgeat qui m'interpelle et me dit « Vous n'êtes pas intéressée par des sorties de famille, des visites entre amis, je sais pas, des balades et tout et tout et tout. » Je dis « Bon, écoutez, actuellement, on ne fait rien si ce n'est lire. Donc, ça m'intéresse d'avoir plus d'informations sur votre association. » Donc, du coup, je prends, je crois, 30 minutes avec elle parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi derrière. Elle m'explique un peu les avantages.
Alors, c'est quoi le principe de l'association ? Qu'est-ce qu'elle propose ?
Elle propose différents services, déjà des groupes pour les groupes d'étudiants, c'est-à-dire qu'on se croise entre étudiants ou on se croise entre diverses personnes et tout, on discute un peu du tout, on se balade et tout. Ça permet de faire des sorties dans la ville du tout. Il y a déjà ce côté-là. Il y a un service de bien-être social, je crois aussi. Il y a des services de soporologie, relaxation psychologique et relaxation psychologique et sportive. Après, je crois que c'est ça. Ouais, c'est un peu bizarre.
Et vous avez rencontré une famille qui vous accueille, c'est ça, pour les repas ?
Exactement, la famille Boumi que je salue au passage.
Ah bah j'espère qu'ils nous écoutent. Alors racontez-nous le principe, vous ne les connaissiez pas. Et cette famille s'est proposée auprès de l'association pour accueillir donc des étudiants en difficulté, pour partager un repas que vous ne pouvez pas vous offrir et pour partager aussi des conversations.
Exactement. Donc la famille Boumi, on ne se connaît pas en particulier. Elle s'est proposée effectivement, comme vous l'avez dit déjà là, à l'association pour essayer de venir en aide à certains étudiants, pour quel que soit le besoin, que ce soit faire de la machine, des repas, discuter un peu de tout. Donc du coup, l'association me met en contact avec l'un de mes amis aussi, avec la famille. Je crois qu'on s'est croisé un samedi, j'oublie déjà la date. On s'est croisé un samedi, déjà... Il y a eu échange de contact via l'association. Voilà. Ensuite, la famille m'a contacté, ainsi que mon ami, histoire d'avoir notre planning et pour qu'on essaie de fixer un jour pour qu'on aille vers eux. Ensuite,
vous les avez rencontrés alors ?
Exactement.
Ils sont sympas parce qu'ils sont en train de nous écouter là. Alors, ils sont chouettes, les Boumis ?
Ils sont très sympas, je ne vous fais pas dire.
Est-ce qu'on mange bien chez les Boumis ?
On mange très bien. On mange très bien, on rigole très bien et on consomme très bien aussi.
Ah donc ça vous fait du bien ça ?
Ah ouais, j'ai passé un très bon moment, ça je ne vais pas le mentir, j'ai passé un très bon moment et mon ami aussi me le disait déjà, c'est-à-dire qu'au retour de chez eux, on en discutait beaucoup, c'est une famille très très accueillante.
Ouais, c'est génial.
J'ai une famille très accueillante, le monsieur Boumi en particulier, un historien, un collègue historien.
Pile poil, vous faites des études d'histoire, donc vous êtes tombé en plus sur la bonne famille, quoi. C'est-à-dire que vous avez des conversations.
On a eu une très longue conversation même.
Et Hans, est-ce que cette famille, à un moment donné, c'est votre rayon de soleil dans une période qui est quand même très obscure ?
Ah oui. Ah oui. Ça a permis de dégager certains stéréotypes qu'on a avec moi, j'avais personnellement sur la vie en Europe.
D'accord.
Il faut le dire. Ça m'a permis de voir que il y a quand même des personnes qui sont agréables parce que
il y a de la solidarité.
Il y a la solidarité, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est difficile, on est entre quatre murs.
Mais je comprends.
C'est difficile d'avoir de la visite.
Ouais.
C'est difficile de voir un ami qui va vous appeler pour discuter une heure de temps avec vous, mais de là à voir une famille accepter de passer pratiquement plus de 3 heures de temps dans leur domicile,
manger à leur frais, consommer
et rigoler, c'est génial au fait. Ça a été vraiment un bon moment.
Et je vous assure que quand vous en parlez, il y a du soleil dans votre voix qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Vous restez avec nous, Hans. Dans un instant, je vous présente nos invités qui évidemment ont beaucoup à dire parce que votre témoignage illustre une situation cruelle pour les étudiants. Et on va y revenir dans un instant. À tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre.
Je
suis très inquiète pour ma fille de 16 ans, nous écrit Diane. On parle de la jeunesse aujourd'hui sur RTL. Elle qui était si joyeuse se renferme beaucoup. Elle vit très mal les cours en visio, le manque de ses amis. Nous parlons beaucoup, mais ça n'est pas suffisant pour l'aider à aller mieux. On parlera avec Adam tout à l'heure qui a sensiblement le même âge que votre fille Diane. Vous pourrez écouter son témoignage. Hélène, mon fils de 19 ans étudie à 200 km de chez moi. Il a perdu son petit job et se retrouve financièrement en très grande précarité. Je suis maman célibataire avec moi-même des soucis financiers. Je ne peux pas l'aider et ça me brise le cœur. Je suis certaine qu'il a déjà eu recours à de l'aide alimentaire, mais il n'osera jamais me le dire. Cette crise est une catastrophe bien au-delà de notre santé. Patrice Huert, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre spécialiste des adolescents. Vous venez d'entendre le témoignage de Hans. Il est emblématique de ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu étudiant.
Alors il est emblématique et en même temps, ses ressources personnelles l'amènent à traverser de manière pas trop négative. Alors que vois moi toute la journée de jeunes étudiants et des lycéens qui sont eux dans de très grandes difficultés pour vivre cette période-là et qui vont les uns décrocher complètement dans un moment dépressif grave et d'autres au contraire tenter de s'accrocher mais dans un mouvement de colère à l'égard d'une situation qu'ils estiment injuste à un âge où on a vraiment envie d'être en relation avec les autres.
Anne-Victoire Rousselet, bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Anne-Victoire, Hans, comme le disait le docteur Patrice Huert, Hans a des ressources, effectivement. Il avance, il se dit qu'il n'a pas le choix. Hans, en même temps, a pris des initiatives pour être en lien, notamment avec une association, Hans, qui vous a permis de faire des rencontres. Est-ce qu'effectivement, le sentiment de solitude chez les jeunes est l'un des grands poisons de cette période de pandémie ?
Alors oui, particulièrement, parce que les jeunes, alors tout le monde se développe vraiment en société, hein, mais particulièrement entre 10 et 25.
On est en bande. Hein.
Voilà, on est en troupeau.
Voilà, en troupeau de jeunes.
On a besoin de se sentir appartenir. On a un sentiment d'identification qui est très fort et ça nous guide dans notre construction. Donc ils sont particulièrement mal de contact social parce que ça les entrave en fait dans leur développement. Et donc ils souffrent de ça sans forcément mettre de mots dessus. Alors on parle de dépression, d'anxiété, de peur, de colère. En tout cas, il y a beaucoup de réactions émotionnelles, physiques, physiologiques. Et beaucoup de jeunes qui décompensent en ce moment-là. Ils ont tenu quand même une bonne
Mais
année.
Mais on peut saluer, moi, je trouve, le courage et la ténacité des jeunes aujourd'hui.
Tout à fait.
Patrice Huert, vous avez entendu Hans aussi qui nous expliquait son quotidien, une pièce de 9 mètres carrés, beaucoup qui nous écoutent doivent s'y retrouver, de l'aide alimentaire, des cours. C'est quand même une vie qui n'est pas celle d'ordinaire d'un jeune de 26 ans. C'est déjà une vie où on ne fait finalement que de l'utile.
Oui, mais on voit vraiment de grandes différences selon les situations, puisque vous allez avoir des jeunes qui vont être comme ça confinés dans une chambre très exiguë ou dans leur chambre chez leurs parents alors qu'ils n'étaient plus chez eux jusqu'au confinement, et puis d'autres pour lesquels les conditions de vie sont différentes. On va avoir ces différences d'environnement, les différences dans les relations aux autres. Oui. Certains vont continuer d'aménager des relations aux autres et d'autres ne plus pouvoir du tout le faire. Et puis surtout, c'est ma contribution professionnelle qui me fait dire ça, nous avons des différences importantes d'un jeune à l'autre selon sa vulnérabilité, sa fragilité préexistante. Et là, on voit très bien que les plus vulnérables basculent pour un bon nombre et l'augmentation du nombre d'hospitalisations et de consultations est très préoccupant. Et on n'est qu'au début, je crois qu'il y aura des effets retards qui vont se manifester pendant de nombreux mois.
Et on reviendra sur la prise en charge de ces jeunes un petit peu plus tard. Hans, vous restez avec nous. On accueille tout de suite Florian Tirana sur cette antenne. Florian, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous avez 25 ans, vous êtes étudiant en sciences politiques et écologie et vous êtes président de l'association Nightline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, tout à fait. Nightline, c'est une association qui a été fondée il y a quelques années, donc avant Covid. Et le principe est de fournir un service d'écoute qui est ouvert la nuit pour les étudiants et qui est tenu par des étudiants. Donc l'idée est que n'importe quel étudiant peut appeler Et derrière, un de nos bénévoles qui est formé à l'écoute active qui va répondre, donc qui n'est pas du tout là pour faire une thérapie ou un suivi professionnel, mais simplement pour écouter. Et on peut parler de tout, c'est anonyme et confidentiel, donc c'est l'idée vraiment de libérer au maximum la parole.
Alors justement, est-ce que vous avez remarqué depuis un an une augmentation des appels ?
On a une augmentation très forte des appels d'année en année et c'est clair que l'année dernière avec le Covid, on a été très sollicité. Là, depuis la rentrée de septembre, on a déjà reçu plus de 7000 appels, ce qui a fait de nous la nightline la plus sollicitée dans le monde, alors qu'on existe depuis quelques années et qu'il y en a depuis les années 70 au Royaume-Uni, par exemple. Donc, ce qui nous dit un peu quelque chose de l'état en termes de santé mentale des étudiants.
Alors, on va vous rappeler, Florian, parce qu'on vous entend mal, et c'est très important, effectivement, de savoir plus en détail aussi ce que les jeunes vous disent, bien évidemment, sur la ligne de Nightline. C'est formidable, quand même, de voir Anne-Victoire Rousselet, toutes ces initiatives, que ce soit l'association dont nous parlait Hans, l'association Sonara, ou cette ligne ouverte aux étudiants.
C'est des points très positifs en fait de cette crise, c'est que certains n'ont pas de ressources, d'autres en développent de nouvelles et les proposent aux autres. Et dans toute période de crise, en effet, il y a un moment où on s'arrête, on se fige, et un autre où on peut être dans l'action. Et c'est ce qu'on commence à observer avec des initiatives à droite, à gauche, de cet ordre-là, plus ou moins légal.
Mais en même temps, avec la volonté effectivement de créer un mouvement d'une forme de solidarité dans l'adversité. Je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne. Vous allez rester à notre écoute, j'imagine, parce qu'on va continuer quelque part à parler de vous, les jeunes. Je vous souhaite le meilleur. Écoutez-nous, allumez la radio. Écoutez, on est fait pour s'entendre. On essaie de diffuser aussi de l'info et de la bonne humeur tous les après-midi. Et puis voilà. Et puis je vous invite. Je vous souhaite plein de bonnes choses avec la famille Boumi. Hein, et puis quelques sorties quand même dans la jolie ville de Tours. Merci, Hans. Prenez soin de vous. Nous, c'est l'heure des infos sur RTL. On se retrouve juste après.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30.
Laurent nous écrit « Ce que vivent les jeunes est terrible. Les voir faire la queue au resto du cœur tandis que les plus riches de ce pays s'en mettent plein les poches, tout ça me révolte. » Cette jeunesse, on en parle aujourd'hui et surtout on lui donne la parole à travers le témoignage de Hans, sous l'oreille bienveillante de nos invités, Patrice Huert, pédopsychiatre spécialiste des adolescents, Anne-Victoire Rousselet qui est psychologue et psychothérapeute, et l'on retrouve Florian Tirana, vous l'avez entendu juste avant l'info, Florian Tirana qui est étudiant en sciences politiques et écologie et qui est président d'une association Nightline, qui est devenue depuis mars 2020 l'association, la Nightline, la plus sollicitée du monde, alors qu'elle existe depuis les années 70 dans le monde anglo-saxon, nous avez-vous dit. Le principe, c'est que c'est une ligne que l'on peut appeler lorsque l'on est un jeune et qu'on se sent en détresse. 7000 appels depuis le mois de septembre, donc une très forte augmentation des appels. Florian Tirana, vous nous le disiez, et ça je le répète pour ceux qui nous écoutent, c'est anonyme. Voilà, c'est confidentiel, donc tous peuvent vous parler de choses qui leur sont importantes. Néanmoins, est-ce que vous accepteriez de nous donner un peu les grandes lignes des atermoiements, des difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui qui vous appellent ?
Oui, sûr. Donc sur les grandes lignes, en fait, c'est assez intéressant de voir qu'au moment du confinement, on a eu vraiment un changement où on avait beaucoup d'appels qui nous parlaient de la situation, de la solitude qui était engendrée par le confinement, donc il y a un an. Et au fur et à mesure, ça s'est un peu dilué et on est revenu finalement au thème de base du service d'écoute qui sont la solitude, les études, les relations avec la famille, les amis. Mais tout ça a été modifié par la situation Covid et tous les problèmes en sont aggravés. Ne serait-ce que par le fait que c'est beaucoup plus difficile de se voir et les questions de solitude qui sont très présentes dans le service d'écoute sont renforcées, et non seulement pour ceux qui se sentaient déjà seuls mais aussi pour tous les autres qui d'une manière ou d'une autre finalement se retrouvent seuls puisqu'on n'a plus du tout la possibilité d'avoir une vie étudiante comme avant.
Le numéro de la Nightline, j'y arrive, il y en a un par ville. On peut conseiller le site, hein, pour ceux qui nous écoutent. Si vos enfants, justement, sont étudiants, ne sont pas près de vous, vous pouvez leur dire de se rendre sur nightline.fr. On mettra de toute façon toutes les coordonnées des associations sur nos réseaux sociaux et ça pourra vous aider. Florian, merci. La ligne est difficile aujourd'hui avec vous, mais bravo en tout cas pour vos initiatives. Merci à vous. Viviane nous écrit, j'ai contacté studelp.fr pour aider des étudiants à La Rochelle. Ils mettent en relation des étudiants dans le besoin des donateurs. Je suis très heureuse de pouvoir aider un étudiant en Master 1 à l'IUT de La Rochelle. J'ai reçu ses coordonnées vendredi dernier. Je l'ai contacté pour connaître ses besoins. Et samedi, nous nous sommes rencontrés à l'IUT. Je pense faire de la cuisine cette semaine et je pense lui apporter un tagine. Alors un tagine, Patrice Huère, ça change pas tout, évidemment. Mais je dirais que le lien social, et on l'a entendu à travers ce que nous disait Florian Tirana il y a un instant, le lien social, c'est le moteur de la jeunesse.
Bien sûr, de tous les âges d'ailleurs, mais dès la crèche, cela commence. Ouais. Mais quand on est lycéen, étudiant, c'est évidemment l'âge des expériences relationnelles nouvelles, et c'est d'autant plus précieux. Donc le tagine ou toute autre initiative de ce genre sont bienvenues, évidemment, pour sortir d'un sentiment de solitude. Et surtout, chaque être humain, dans ces situations-là, a tendance à penser que ce qu'il éprouve, il est le seul sur Terre à l'éprouver. Ouais. Et de pouvoir partager avec d'autres et de s'apercevoir que les autres aussi, dans la même situation, vivent difficilement ce qui se passe, c'est déjà quelque chose. Et je trouve que ça peut aider énormément dans la mesure où sinon, ça conduit, et ce que l'on voit, là, à des embouteillages dans les demandes d'hospitalisation actuellement sur les 15 unités que je coordonne en France. On voit une augmentation très importante du nombre de demandes pour des détresses dépressives ou des angoisses massives qui débordent. Donc, vive ces initiatives qui permettent d'être en lien avec les autres.
Alors, initiative au point local, initiative au point national et les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière, oui. Où les jeunes bénéficient désormais d'un forfait pour 10 séances gratuites auprès de psychiatres. Ça, c'était une nécessité, c'était urgent, Patrice Huère.
Oui, absolument, absolument urgent. Quand on sait que, d'une part, les consultations en psychiatrie sont totalement saturées actuellement, il y a à peu près 6 à 8 mois d'attente pour une première consultation, ce qui est inadapté à la situation, bien sûr, et qu'il y a un certain nombre de psychologues, par contre, qui peuvent recevoir en cabinet, mais pour lesquels la barrière pour l'étudiant ou pour le jeune était la barrière financière. Donc, qu'il y ait une prise en charge est évidemment une très très bonne idée, même si les conditions ne satisfont pas forcément toujours les psychologues, mais c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que c'est un nombre actuellement très limité et peut-être que ça donnera un coup d'accélérateur à la prise en compte des actes de psychologues comme ceux des médecins pour l'avenir, ce qui n'a pas encore été le cas.
Ces jeunes, Patrice Huère, ils se sentent seuls. Est-ce qu'ils sont angoissés?
Oui, il y a beaucoup d'angoisse, en tout cas chez ceux que je rencontre. Bien sûr, je ne rencontre pas ceux qui sont en pleine forme, mais l'angoisse à cet âge-là, elles peuvent se manifester soit par des sentiments de désolation, d'être dans un monde où on est incompris, où on où la peur de contaminer son entourage, très 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 fréquente chez ces jeunes, hein, qui ont un sentiment de responsabilité à l'égard de leurs aînés qui est tout à fait remarquable et qui du coup leur pèse sur leurs épaules vraiment très très fortement. Et puis vous avez d'autres modes de réaction qui vont être des modes de réaction agis, c'est-à-dire ils vont agir, ils vont transgresser, ils vont provoquer. J'ai des étudiants qui sont partis du jour au lendemain de France en arrêtant leurs études en plein milieu, etc., dans des moments de ras-le-bol et de colère et de transgression. Donc ces deux extrêmes, soit l'affaissement sur soi-même dans l'angoisse et la dépression, soit le passage à l'acte pour essayer de quitter une situation qu'on juge absolument insupportable.
Dans un instant, Anne-Victoire Rousselet, je vais vous présenter Adam. Il a 17 ans, il va nous raconter ce que c'est que d'avoir 17 ans aujourd'hui en 2021. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
On souffle sur le brouillard, on essaye d'y voir un petit peu plus clair. Justine a 22 ans, elle est étudiante en école d'ingénieur agronome à Montpellier, Supagro. Je vis dans une résidence qui dépend de mon école. J'ai passé tout le deuxième confinement chez mes parents en région parisienne. J'ai contacté l'école à plusieurs reprises pour savoir s'il était possible que le loyer soit allégé lors de mon absence pendant 5 mois ou moins des charges. Aucune réponse de leur part, même après 3 relances. Heureusement, j'ai la chance, nous écrit-elle, d'avoir pu obtenir un prêt étudiant, ce qui me permet de payer mes repas, mon loyer loyer et mes allers-retours chez mes parents. Bravo Justine, vous êtes tenace. Je suis enfermée dans ma chambre d'étudiant sans voir personne. L'ennui l'emporte très vite. C'est rapidement la déprime. Alors je travaille, j'écoute la radio. Mais la vie n'est pas simple, seule, sans ma famille, sans mes amis et sans mes proches. Nous avons besoin de présence et d'argent. En tout cas, merci à vous. Je suis une auditrice très régulière. Merci Justine. Et j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup Justine pour ta présence et ton écoute précieuse. Qu'est-ce que c'est difficile, Anne-Victoire Rousselet, quand on écoute ces jeunes et on était en train de se dire que là, voilà, le premier mot qui nous vient, c'est la compassion.
Bien sûr, comprendre que ce qu'ils vivent, c'est très compliqué. Et on se replonge aussi dans nos années d'études et de jeunesse.
Qui n'avaient rien à voir avec tout ça.
Et on a en effet beaucoup de compassion pour eux.
Est-ce qu'il faut être un petit peu indulgent, Patrice Huère, avec nos jeunes aussi ? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup exigé d'eux ? Moi, j'ai le sentiment que depuis un an, on leur demande beaucoup. On leur demande, au nom d'une certaine jeunesse et d'un pouvoir d'adaptation, on leur demande de continuer leurs études, de prendre des cours en visio qui parfois sont absolument impossibles à suivre, d'avoir la pêche, de se taire, de suivre le mouvement.
Tout à fait. Surtout quand s'ajoute à cela la culpabilisation, le risque qu'ils auraient plus que d'autres encore de contaminer leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là qui était insupportable, à quoi ils se sont soumis avec beaucoup de gentillesse, presque trop, je pense.
Oui.
Et là, vraiment, c'était totalement injuste. Oui, tout à fait.
Olivier nous écrit, nos enfants ne vivent bien sûr pas la guerre, mais ils ne sont pas la priorité dans cette bataille contre le virus. Ils sont même laissés pour compte. Vous avez fait une émission sur les grands-parents en demandant s'ils étaient les grands perdants. C'était effectivement il y a 2 semaines. Je pense en réalité que ce sont nos jeunes les grands perdants. N'oublions pas qu'ils sont notre avenir. Alors, l'avenir, c'est aussi Adam. Il a 17 ans. Il vit à Paris où il est en première générale, option humanité, littérature, philo, bravo, histoire géopolitique et sciences politiques et SES. Bah dites donc, vous avez du boulot Adam. Salut Adam.
Ouais. Bonjour, ça va ?
Bah oui, ça va. Est-ce qu'on peut se tutoyer parce qu'on a le même âge ?
Bah, bien sûr.
Super. Adam, donc tu as 17 ans. Dites-moi, à 17 ans, moi, j'avais qu'une envie quand même. C'était de vivre cette jeunesse et d'essayer à un moment donné d'en faire quelque chose parce que c'est super précieux. Comment ça se passe pour toi depuis un an ?
Bah, moi aussi, j'aimerais bien vivre cette jeunesse dont tu parles, qu'on me promet et qu'on m'a promis depuis longtemps.
Ouais.
Comment est-ce que je vis ça, honnêtement? Après un an, on commence à s'y faire. Faut pas se leurrer. Il faut bien vivre avec, parce que si on vit dans ce pessimisme, sans s'arrêter, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, on essaye d'avoir l'optimisme dont vous parliez en début d'émission.
Mmh.
Et puis voilà, on se dit qu'il y a pire, comme par exemple Hans au début de l'émission, qui était confiné loin de chez lui, loin de chez ses proches, dans un 9 mètres carrés. Voilà, on se dit qu'il y a pire, comme ce cas, et puis on essaye de vivre. Mais puis c'est difficile, puisque on se dit en fait que on voit pas le bout du tunnel.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas tellement de... Parfois, ils parlent, ils disent ça va être dans 2 semaines. Parfois, ils parlent, ils disent on n'est pas encore sorti. Il y a un peu des discours à géométrie variable. Donc, on se dit en fait, on voit pas le bout du tunnel, quoi. Et est-ce qu'il y a un bout du tunnel ? C'est ça la question.
Ou alors, écoute, j'espère. Oui. Enfin, je m'engage, j'y crois quelque part d'une certaine façon, Adam, parce que effectivement, si on se dit qu'il n'y en a pas, on est quand même un peu mal barré, on va tous craquer. Mais néanmoins, qu'est-ce qui te manque, Adam ? Est-ce qu'il y a par exemple des choses que tu n'as pas encore vécues ou que tu as juste découvertes il y a peu de temps dans ta vie et t'as l'impression que tout ça a été fauché par la Covid ?
Bah, pour répondre à ta question, c'est un petit peu la vie un petit peu plus libre. C'est-à-dire que mes parents me laissaient davantage sortir, ils me laissaient plus de liberté, ils me faisaient plus confiance et c'était agréable puisque je m'en rendais compte.
Ouais.
Et d'un coup, moi, j'avais beaucoup de projets en 2020, comme voyager avec mes amis à travers la France ou un peu plus sortir. Et puis, bam, il y a mars, il y a le Covid qui me dit restez chez vous. Et puis, en réalité, ce qui me manque le plus, c'est pas tellement des choses que j'ai découvertes. C'est plus cette vie sans pression, en fait, sans se dire qu'on doit rentrer avant le couvre-feu, sans se dire qu'il y a une épidémie qui circule, sans se dire qu'il faut garder le masque. Mmh. Enfin, voilà.
En fait, t'as l'impression que ta vie, alors que normalement, on regarde la vie un peu comme une cour de récréation, hein, même si vous êtes beaucoup plus responsable, je pense, aujourd'hui que vous ne l'étiez, nous, à votre âge. Mmh. Mais vous êtes dans un monde qui, déjà, n'est pas facile. Mais en fait, t'as l'impression que la vie est déjà une grande contrainte, quoi, hein, au quotidien.
Oui, c'est ça. On se dit que c'est les années au lycée, on n'a pas tellement de cette pression, par exemple, qu'on aura lors des études mais supérieures, oui, après notre bac, on devra se dire, il y a peut-être un loyer, il y a peut-être des études supérieures, un travail à aller décrocher. Ouais. Alors que là, on est dans cette insouciance un peu de se dire, je me réveille le matin, je vais au lycée, je fais mes devoirs et cela s'arrête là, quoi.
Ouais, ouais, et puis après, je retourne voir mes potes. Mais tu sais, moi, je me souviens,
c'est
quand
ça,
j'avais ton âge.
On a l'impression de perdre ses plus belles années.
Quand j'avais ton âge, moi, j'avais les plus anciens qui me disaient, mais profite, profite, tu verras après, ce sera super dur. Et effectivement, moi, je pense à vous et je sais à quel point c'est difficile. Tu restes avec nous, Adam, parce qu'on va se retrouver dans un instant. À tout de suite.
Parfait.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Adam, il a 17 ans. Alors à 17 ans, on nous dit plus, dis donc, faut que tu sois rentré à 19h. Non, à 17 ans, les parents nous laissent un petit peu vivre notre vie. Ben toi, voilà, aujourd'hui, t'es condamné, comme tous les autres d'ailleurs, au couvre-feu à 19h. Tu dois mettre un masque, tu dois suivre des cours en visio. Est-ce que c'est facile de suivre des cours en visio, Adam ?
Non, c'est, honnêtement, c'est pas facile.
Ouais.
Puisque c'est, il y a beaucoup trop de distractions. Déjà que la différence avec le présentiel, c'est que les professeurs nous voient et qu'on peut pas trop tourner le regard déjà. Alors que là, en distanciel, c'est complètement l'inverse. On peut être distrait par notre téléphone, par l'environnement. Et puis, il y a ni micro, ni caméra. Donc, enfin, faut pas se leurrer. On n'assiste pas forcément correctement à tous les cours.
Et puis, est-ce que c'est intéressant? Tu vois, moi j'ai un fils, dernièrement je l'ai vu prendre son cours de visio et je me suis mise à sa place et j'ai eu mal pour lui. En toute honnêteté, je me suis dit qu'est-ce que c'est difficile d'être intéressé par un cours dans ces conditions.
C'est ça, ces conditions. Et puis parfois certains profs ne mettent pas la caméra, donc on n'a pas un petit peu le, comment dire,
la
sensation que l'on a en vrai, quoi. Il y a un monde d'écart, c'est ça.
Et tu arrives à suivre tes cours quand même parce que tu vas passer ton bac de français là?
Ouais, exactement, dans un peu plus d'un mois.
Et vous savez ce qui va se passer ou pas? Oui, c'est ça. Si.
Bah, malheureusement, le gouvernement, l'État nous laisse un petit peu dans le flou, dans l'incompréhension. C'est ça aussi un petit peu qui, je crois que c'était Monsieur Patrice, c'est ça, qui parlait de sentiment d'injustice.
Ouais, ouais.
Bah, c'est ça en fait. Le sentiment d'injustice, il se fait ressentir à partir de ce moment où on nous laisse dans le flou, quoi. Même si c'est pour nous dire qu'on sait pas, au moins qu'on nous le dise là, parce que ça fait. Ça fait plus d'un mois qu'on se passe ce qui va se passer.
Ouais, je comprends. Et dernière question, Adam, réponse rapide. Comment ça va avec les meufs quand on a un masque?
Ah, bah c'est. Il y a une expression qui dit les yeux ne mentent jamais.
Ouais.
Donc c'est pas grave.
Eh, tu serais pas un séducteur, toi?
Moi? Non.
Non, mais ça doit être difficile. Enfin, pardon, mais c'est un peu une obsession à votre âge. Enfin, c'est chouette, quoi, de tomber amoureux.
C'est ça. C'est les femmes que l'on rencontre au restaurant, au bar. En
dites
boîte
donc.
De nuit parfois.
Ah ouais, d'accord, voilà, carrément, quoi. Ok. Non, mais voilà.
Moi, je parle au nom des autres, pas à mon nom.
Non, évidemment, j'ai bien compris. Patrice Huer, on entend chez Adam la jeunesse, quand même, hein, qui est là derrière tous ces mots, derrière cette envie d'en découdre, quand même. Et en même temps, bah, une vision très, très, très bouchée, finalement, de l'avenir.
Que tout se passe dans le présent uniquement. Et c'est un des pièges terribles que d'être enfermé dans le présent sans aucune perspective. Il en parlait pour les examens, mais on voit ça dans tous les autres domaines. Et cette condamnation au présent est terrible. Et je crois qu'un de nos rôles, à nous les adultes, ça va être de relancer les perspectives d'avenir, même si on ne sait pas dans quel terme, mais il y aura forcément un avenir et les capacités de rebond de cette jeunesse, pour les voir tous les jours, je sais que ces capacités-là sont très présentes, à condition qu'ils puissent s'appuyer aussi sur des adultes qui leur donnent à penser, à entendre que demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui, à coup sûr. C'est ce qui s'est toujours passé après toutes les grandes crises, guerrières ou autres, il y a toujours eu des lendemains. Et donc, les capacités de rebond dont ils disposent, vraiment, moi j'y crois très fortement. Par contre, il y en aura toute une partie qui va être abîmée par tout ça, même si c'est une minorité. Cette minorité-là, effectivement, il faut absolument qu'on s'en occupe dès à présent.
Anne-Victoire aussi.
Oui, c'est ça, c'est restaurer la capacité à se projeter pour les jeunes, les aider avec notre âge et notre recul à supporter le moment instantané qui est compliqué, et puis réinsuffler aussi, mais je pense avec leur énergie, leur stratégie d'adaptation, hein, parce que là on voit que quand même les jeunes sont assez positif malgré tout, assez tourné vers l'avenir, mais voilà, il faut se concentrer sur l'immédiateté en attendant de mieux.
Tu voulais dire quelque chose, Adam? La conclusion, ce sera pour toi.
Oui, c'est ça. C'est, comme disait Patrice, on a un petit peu peur d'être cette génération sacrifiée dans le supérieur, mais malgré tout, il faut vraiment garder une vague d'optimisme parce que c'est la seule chose qui pourra nous sauver. Il n'y a rien d'autre qui nous sauvera à part nous-mêmes et nos proches. Et puis, je pense que c'est bien pour conclure. Il faut être optimiste, on s'en sortira.
C'est bien pour conclure. Hey, dis donc, je ne sais pas ce que tu feras toi plus tard. Tu veux faire quoi dans la vie?
Ouais, moi j'aimerais bien faire de la diplomatie.
Ouais, hein. Ah, sans blague. Eh ben moi je trouve que tu, en tout cas, tu as une très bonne oralité, voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura de l'oral en présentiel cette année, mais si tu passes le bac de français en présentiel, vas-y à fond quoi, t'es trop bon. Merci beaucoup Adam.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci, plein de bonnes choses pour toi, pour tes potes. Soyez prudents. Et on est de tout cœur avec vous, évidemment. Merci. Salut Adam. Anne-Victoire Rousselet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je cite Mieux vivre avec la schizophrénie aux éditions Duno, qui est un livre passionnant, qui n'a pas grand rapport avec notre sujet du jour, mais qui est un livre très intéressant. Merci à vous. Patrice Huère, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Aux éditions Audi Jacob, on retrouve aussi votre dernier livre, Lieu de vie, ce qu'ils disent de nous. Et ça aussi, c'était éclairant. Allez hop, on va faire des liaisons qui n'existent pas, ce sera magnifique. Merci beaucoup Patrice Huère.
Merci, au revoir.
À bientôt sur RTL. Merci à vous tous pour cette heure passée en votre compagnie. On se retrouvera demain dès 14h30 en direct sur RTL. On parlera de la prostitution qui reste l'un des plus gros tabous en France. On entendra des témoignages aussi sur ce sujet. D'ici là, évidemment, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse, à demain.
Flavie Flamand sur RTL.